d'emploi. Mode d'emploi.
Et oui, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Je suis ce soir avec Ludo et Christophe et bien sûr Claude à la technique, c'est Gilles au micro pour vous servir. Ce soir, nous parlerons donc du choc des compétitivités. Est-ce donc une lubie, un choc réel, un mythe ou bien une réalité? Les applications sur le territoire, les pauvres et les riches, nous en parlerons ce soir également, bien sûr. Nous parlerons également des Français qui sont consultés sur le chômage, un sondage de l'UARIS sur l'emploi. Également du nouveau rêve libéral britannique, renoncer à ses droits de salarié en échange d'actions en bourse. Mais pour commencer, nous parlerons de l'horreur européenne. C'est un livre qui a été sorti par Frédéric Vial, qui est membre du conseil d'administration et animateur de la commission échanges internationaux d'attaque, qui nous parle ce soir, bien sûr, de l'Europe. Nous pourrons, bien sûr, tout de suite l'écouter.
On a vu là récemment dans l'actualité que c'est aussi bien un carcan tout à fait important que quand les États le décident, on l'a vu avec la crise, ils s'assoient sur les règles de l'Union européenne. On s'est assis. Les États se sont assis récemment sur les règles du traité de Maastricht et ça a posé de problème à personne. Donc aussi bien l'Union européenne est un carcan pesant, et en même temps on voit que quand les États sont décidés à ne pas respecter ce carcan, eh bien, ils l'ignorent. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose là, à chaque fois, cette espèce d'ambivalence profonde de la nature de l'Union européenne qui est difficile à traiter. On parle d'Europe et Union européenne de manière totalement indistincte. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien de l'idée d'Europe. L'idée d'Europe, cette idée qui est une belle idée de paix, de prospérité, de rencontre de la culture de l'autre, de frontières ouvertes, etc. Toutes ces choses-là qui, effectivement, nous parlent positivement et sont connotées positivement. Et on confond ça avec une autre notion très différente qui est l'Union européenne, c'est-à-dire telle que ici et maintenant existe cette entité politique qui prend effectivement un certain nombre de décisions sur lesquelles les populations n'ont pas de prise ou si peu. Et donc cette défaite sémantique, c'est-à-dire le fait qu'on confond Europe, idée européenne et Union européenne, pose aussi un certain nombre de problèmes politiques absolument redoutables. Et on l'a vu, vous vous en souvenez sans doute, lors de la campagne du référendum de 2005, puisque un des grands arguments contre le non, c'était de dire « vous êtes anti-européen ». Et une des grandes victoires du non a été de dire « nous voulons une autre Europe » et non pas « nous voulons détruire l'Europe ». Mais quand il s'agit de parler des choses sérieuses, c'est-à-dire lorsqu'il est question des mobilisations, lorsqu'il est question des programmes, lorsqu'il est question de savoir ce qu'on va faire, si jamais on, les partis politiques arrivent au pouvoir, et bien là, l'Union européenne est traitée d'une manière, il faut bien le dire, étrangère, c'est-à-dire c'est une question qui est rejetée politiquement, non pas comme une chose décorative, je n'irai pas jusque-là, mais comme quelque chose de second par rapport à ce qui peut se faire effectivement ici et maintenant, et on sait encore une fois que les mobilisations sont nationales, donc la logique nationale ou locale, donc la logique des partis politiques, la logique des syndicats, des mouvements sociaux qui en reviennent toujours à ce cadre-là, est une logique qui s'explique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une logique imbécile. C'est une logique qui s'explique. Mais en même temps, on passe assez largement à côté d'un piège dans lequel on est là en train de se débattre, qui est l'existence d'un système politique qui n'est pas atteignable par la population, en tous les cas tel qu'il se conçoit aujourd'hui, et qui a un rôle extrêmement précis, qui est celui d'éviter la démocratie. Donc à partir de là, passent un certain nombre de décisions qui sont des décisions qui n'ont pas nécessairement été voulues par les populations, mais celles-ci, se battant constamment le dos au mur, finissent par se les voir imposer. D'abord, sur les questions d'actualité, donc pour illustrer le fait que l'Union européenne a un rôle précis et que ce rôle est néfaste. Et qu'il est question maintenant de voir comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de là. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se lamenter, mais il faut voir aussi comment on peut arriver à sortir de ça. La construction de l'Union européenne telle qu'elle se fait ne pouvait que aggraver la crise que nous connaissons. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est très clair et qui est très illustratif, dans les faits de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la crise que nous connaissons, dont le point de départ était presque deux ans maintenant, l'épicentre était aux États-Unis à travers la crise financière, à travers les subprimes, comment est-ce que cette crise est passée d'une crise aux États-Unis de l'immobilier des subprimes à une crise mondiale, on le sait par le phénomène de titrisation, d'injection dans les banques et sur les marchés financiers d'un certain nombre de titres pourris, tout ça c'est su. Mais en plus, là maintenant, la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire d'une troisième phase de la crise, qui est en même temps une purge sociale et en même temps une crise de la dette publique, hein, ça va complètement ensemble, ça c'est dû au type de construction qui est la construction européenne. Il y a eu quelques étapes. Il y a eu déjà, à partir de 1986, à partir du moment où l'acte unique, puis Maastricht en 92 et Amsterdam en 97, la mise en place, cette espèce d'obsession de mise en place d'un marché unique, intégré, régi par le seul droit efficace que produit aujourd'hui l'Union européenne, qui est le droit de la concurrence. À partir de là, on a eu toutes les politiques libérales qui ont été systématisées. À partir du moment où on dit que le seul droit efficace, et on le met en place dans les traités, le seul droit efficace, c'est la concurrence, alors ça veut dire que nécessairement derrière, on a eu tout ce qu'on a connu à partir des années 80 et 90. Dans l'ordre, la destruction des services publics. Mais on a commencé par les services en réseau, on a commencé donc par l'électricité, par la poste, je ne vais pas tous vous les faire, vous le savez. Pourquoi ? Parce que le principe est celui de la mise en concurrence et que par définition, les services publics, c'est antinomique avec les notions de mise en concurrence. Donc dès lors qu'on accepte que la mise en concurrence est l'alpha et l'oméga des politiques publiques, et c'est ce qui a été acté en 86, puis 92 et 97, dès lors qu'il est question d'unifier le marché intérieur, grâce à la concurrence, eh bien, on a nécessairement une destruction méthodique, point après point, systématique, de l'ensemble des services publics. D'abord les services publics de réseau, et maintenant les autres services publics. L'existence de l'euro tel que cela a été construit, c'est-à-dire une monnaie gérée par une banque centrale indépendante dont le seul but est de lutter contre l'inflation et pas du tout de se préoccuper des conséquences économiques et sociales de la gestion monétaire restrictive qui est posée dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez, tout ça découle largement de ce principe-là qui a été acté à ce moment-là, 86, 92, puis 97. Deuxième grand virage de l'Union européenne, le fait qu'il y ait eu un grand élargissement sans approfondissement. À partir du moment où les 10 pays de l'Est ont été intégrés dans l'Union européenne tels qu'ils ont été intégrés, c'est-à-dire pratiquement sans fonds structurels, c'est-à-dire en leur disant « vous vous débrouillez pour vous mettre à niveau, mais nous, on ne vous aide pas », à partir de ce moment-là, on intègre dans la construction européenne un élément essentiel qui n'était pas présent à ce point-là jusque-là, qui est l'élément de l'hétérogénéité des économies. Et donc, logiquement, hétérogénéité des économies, ça veut dire que les nouveaux entrants font jouer ce qu'ils peuvent faire jouer, et on ne peut pas leur en reprocher. On ne peut pas dire c'est scandaleux qu'ils le fassent, c'est logique qu'ils le fassent. Et on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit différent, et c'est parfaitement normal qu'ils aient agi comme ça. Bien sûr, ils font jouer les avantages comparatifs, comme on dit en économie, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire venir les investisseurs de deux manières, en baissant au maximum leur fiscalité, bien sûr, mais ça, c'est pas les seuls, mais surtout en jouant sur l'avantage comparatif que constituent des salaires bas et maintenus très bas. Avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire une concurrence entre salariés intra-européens. Les banques peuvent se refinancer auprès de la Banque centrale à un taux faible et prêter à un taux fort aux États, alors que elles sont responsables de la situation antérieure qui explique en large partie les déficits publics. Hein, parce que quand on nous fatigue en nous disant il n'y a pas d'argent pour les retraites, par exemple, hein, je prends un exemple totalement au hasard, évidemment, quand on nous explique ça, il n'y a pas d'argent pour les retraites, sauf que le déficit, il a pratiquement été multiplié par 4, si je ne dis pas d'annerie, dans l'espace de ces 2 ans de crise financière. D'un seul coup, les retraités nous auraient coûté 4 fois plus cher en 2 ans, enfin n'importe quoi. C'est bien que le problème, il vient essentiellement de cette crise. Et alors, on arrive à des situations qui sont, à proprement parler, hallucinantes. Le FMI intervient en Grèce. C'est-à-dire que le FMI intervient non seulement dans un pays de l'Union européenne, mais dans un pays de la zone euro. On rêve.
C'était donc la chanson, c'était Les Exclus de l'excellent chanteur militant Monsieur Béranger, qui reste pour nous un chanteur de un classique, hein, voilà. Et juste avant, c'était l'interview donc de Frédéric Vial, membre du conseil d'administration d'Attac, qui a écrit un livre dernièrement qui s'appelle L'Euro européenne, un livre absolument à lire, voilà. Alors moi, je trouve quand même que d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur cette conférence qui a été donnée par Attac, dont l'invité est Monsieur Frédéric Vial. Sur cette mise en concurrence des pays européens entre eux, entre la concurrence des salariés entre eux au niveau européen aussi, c'est-à-dire les Polonais avec les Français, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces premières paroles de Frédéric Vial?
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi j'ai l'impression que, enfin, non pas tout est dit, parce qu'en fait la conférence durait au moins une heure, quoi, je crois.
Facile, oui.
Mais bon, on a une petite idée, parce que c'est vrai qu'il nous parle de concurrence intra-européenne. Mais en réalité, c'est une déclinaison d'une concurrence mondiale, en fait, hein, et qui est sous-tendue par la mondialisation. Et bon, c'est intéressant que ça arrive maintenant, parce que ça fait écho à un article qui est paru dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, qui s'appelle « Le mythe de la compétitivité, un mythe, point d'interrogation », ou « Le mythe de la compétitivité », et qui explique très bien qu'en fait la baisse des salaires en Europe est liée directement à la mondialisation et au fait que on a des pays du tiers monde, entre guillemets, de l'ex tiers monde ou des pays en développement, je sais pas comment on appelait, qui ont des coûts salariaux qui sont beaucoup qui sont moindres, et que avec la mondialisation et avec le fait de ce qu'on appelle la division internationale du travail, on avait fait de ces pays les ateliers du monde, hein, c'est-à-dire, en l'occurrence, bon, c'est pour la Chine, hein, mais et que ça a un effet direct, en fait, sur les pays européens, hein, en ce qui concerne, et sur les délocalisations, hein, en ce qui concerne les vieilles industries comme le textile, la sidérurgie, toutes les industries, et voire l'automobile aussi, toutes les industries à main de qui était à forte main d'œuvre, quoi, qui employait beaucoup de monde.
Donc mais là, est-ce vraiment qu'un mythe, c'est aussi une réalité, voire un choc même, un choc de civilisation.
Un choc de compétitivité,
c'est ça, voilà.
Mais, alors écoute, le problème, donc comme on l'avait dit à cette dernière émission et comme le dit l'article, hein, alors je vais citer l'auteur quand même parce
que
c'est Gilles Ardina, en fait c'est un géographe, ouais, et qui a donc soutenu sa thèse sur le discours sur la compétitivité, et donc c'est assez significatif en fait que les géographes se penchent sur cette question. Parce que au départ, la notion de compétitivité, donc on parle toujours de compétitivité des entreprises, oui, donc une compétitivité coût. Hein, qu'est-ce qu'on produit, à quel coût on le produit et comment jouer sur le coût. Alors le trois quarts du temps c'est la productivité, mais il y a aussi le coût du travail qui rentre dedans. Et comment on a étendu cette notion à tout, à l'ensemble, au pays, au territoire, à des régions. Donc, bon, pour donner un exemple, dans les années 90, on avait chaque commune devait se mettre en valeur et donc alors devait attirer des entreprises, alors soit par des baisses fiscales, soit par le tourisme, voilà, et chaque commune était donc entrait donc en concurrence avec sa voisine. Et donc ce géographe rappelle qu'en définitive cette compétitivité elle a on peut difficilement en fait l'adapter à un pays entier, donc par exemple à la Grèce. La Grèce est d'un coup un manque de compétitivité, ou à des territoires entiers, parce que c'est au départ c'est pas vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un espèce de d'agrégat de choses très très différentes qui consiste à dire, en résumé, bon bah je vais prendre un exemple, alors bon bah la compétitivité, alors c'est quoi, c'est le PIB par habitant, c'est le niveau d'imposition, c'est le coût du travail, c'est bon, alors on regarde tout ça, on regarde les classements internationaux et puis finalement on s'aperçoit qu'en fait sont classés pays les plus compétitifs, donc les États-Unis, l'Europe du Nord, les monarchies pétrolières, des pays où en réalité la croissance est la plus faible, des pays qui sont très sujets, qui sont facilement sujets à des crises.
Et qui s'endettent en plus pour beaucoup d'entre
eux. Et par contre, sont classés comme très peu compétitifs des pays qui en réalité ont une très forte croissance, qui partent justement, eux, d'une très faible compétitivité coût. Donc en l'occurrence, l'Amérique du Sud.
Chavez, etc.
Oui, Chavez, peut-être pas. Non, mais en tout cas, le Brésil, on va dire.
D'accord.
L'Argentine, mais
Chavez
aussi
est compétitif, d'accord.
Oui, c'est pas ça que j'allais dire, mais bon.
Bon, et puis, ou alors les marges, ou l'Afrique, qui est quand même, a priori, hein, qui a une croissance importante, quand même, hein, malgré tout, même s'ils partent de très bas. Et donc.
Excuse-moi, tu veux dire par là que ça nuit à la croissance, à la compétitivité?
Pas du tout.
Ah bon,
c'est pas ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est l'auteur de l'article, Monsieur Ardina, dit que finalement, la compétitivité, plus, en résumé, le discours sur la compétitivité s'applique en réalité à des pays dont la croissance est faible. Et c'est-à-dire que moins il y a des gains de compétitivité à gagner dans ces pays-là, puisqu'ils ont un niveau de salaire élevé, de protection sociale élevée, et plus on leur assène ce discours sur la compétitivité. Donc c'est un discours qui est invocatoire, enfin oui, c'est de l'invocation, et en même temps qui est paradoxal, parce que finalement, on enjoint à ces pays-là de faire du dumping, ce qu'on appelle le dumping. Alors ça peut être, je sais pas, avant, bon bah c'était une dévaluation compétitive, comme il le cite dans l'article, ou tout simplement des baisses de salaire, par exemple, pour concurrencer des pays avec qui ils ne peuvent pas concurrencer, avec qui ils ne peuvent pas entrer en concurrence. En réalité, on ne peut pas entrer en concurrence avec la Chine sur le domaine strictement du coût du travail.
Oui,
mais alors, le discours de rechange qui va avec est prêt, c'est de dire, mais non, on a besoin l'Europe produit des biens ou des services à haute valeur ajoutée. Voilà. Or, en définitive,
on ferme les portables, merci.
Donc, or en définitive, il y a quand même, d'abord, il y a un effet de rattrapage des pays du Sud. Il y a un effet. un effet de rattrapage.
On est en contact avec Dieu là par internet là, non, j'en sais pas trop.
C'est quelqu'un qui appelle pour dire que
pour dire qu'il
est pas d'accord.
L'émission.
Il est pas d'accord avec ce qu'on dit. Donc il y a d'abord un effet de rattrapage. Bon, je sais pas l'Inde dans l'informatique, mais il y a de toute façon, malgré tout, on peut pas s'abstraire complètement de la compétitivité coût. Donc conclusion. Donc, on a un discours sur la compétitivité qui se décline en deux trucs. Ou bien, on subventionne des industries à forte valeur ajoutée, mais qui ne touchent pas l'ensemble de la population. Parce que, a priori, il faut quand même des gens qualifiés. Puis, il faut des investissements qui sont quand même pas très présents en France. Hein. Le taux d'investissement est le plus bas. Historiquement, il y en a des plus bas dans les pays européens. Voilà. Et puis, ou alors, éventuellement, on peut, dernier levier, se reporter sur le coût du travail. Alors là, je vais faire une digression parce que cette histoire en fait de faible taux de croissance des pays européens sur qui on applique ce discours sur la compétitivité, en fait, il a une réalité qui se traduit dans les politiques européennes, c'est-à-dire un appauvrissement, et notamment en France, hein, un appauvrissement des régions périphériques. Donc on va me dire.
Tu veux dire qu'il y a une différence entre les mégapoles, enfin les villes, et puis la campagne.
Voilà.
Enfin,
alors historiquement, il y a des raisons. Enfin historiquement, c'est même pas historiquement, c'est économiquement. C'est-à-dire que la crise des dernières années, en fait, détruit des secteurs qui sont en concurrence effectivement avec les pays en développement et des vieux secteurs industriels, en l'occurrence, le textile quelque part dans les Vosges, la sidérurgie en Lorraine. Bon, tout ça c'est connu, mais on a une industrie rurale, donc c'est aux marges de des mégalopoles que l'appauvrissement se fait ici, par exemple. Deuxième chose, il y a un retrait de l'État. Un retrait de l'État qui se traduit de façon générale, on a envie de dire, c'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, la décentralisation est une forme de retrait de l'État. On se décharge sur les collectivités locales de budget qui était jusqu'à maintenant géré par l'État. La RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, est un retrait de l'État, puisque on retire des fonctionnaires d'OTAN d'un peu partout, et donc aussi des collectivités territoriales. La réforme de la carte judiciaire est un retrait de l'État.
Ben, absolument.
La SNCF.
L'hôpital aussi.
L'hôpital, bien sûr. Etc. Donc, ouais. Un retrait massif des
secteurs. Donc, l'État
publics.
N'est plus parapluie, ne protège plus, en fait.
Exactement. L'État se retire. Et puis, on a un effet direct, c'est que c'est aux marges de ces mégalopoles que le vote du Front National cartonne.
Voilà. On parle du Sud, la région PACA, et puis du Nord aussi, ces dernières élections, effectivement.
Voilà. Et donc, là, je voudrais citer un ouvrage qui vient de sortir et qui est de Laurent Davezier, qui est professeur au CNAM et qui est un économiste et un urbaniste et qui a écrit un livre qui s'appelle « La crise qui vient », qui est peut-être un clin d'œil à l'insurrection qui vient des fameux livres de La Fabrique, ouvrage anonyme et collectif, ou de l'insoumission qui vient. Christophe nous en parlera tout à l'heure. Et donc, effectivement, qui lui dresse ce constat fatal, effectivement, c'est-à-dire que la crise, non seulement la crise a accru les différences entre ville et campagne, en l'occurrence entre les mégalopoles qui sont sur des activités de service, et puis les campagnes, campagne ouvrière en fait, hein, où l'industrie était présente. Qui se tape non seulement le choc de la crise, plus le retrait de l'État. Et donc, 20%, grosso modo, il estime que 1% de la population est concernée par un chômage de masse généralisé à venir dans les années qui viennent. Donc la crise qui vient, ça s'appelle. Et voilà. Et du coup, on a tout. Donc toute cette invocation sur la compétitivité, mais qu'est-ce qui reste en réalité? En réalité, il reste bien entendu la compétitivité coût. C'est-à-dire les salaires et la protection sociale, qui est le dernier levier possible d'action en politique économique, puisqu'on n'a plus de politique monétaire, puisqu'on n'a plus de politique industrielle, puisqu'on n'a plus de politique budgétaire, il n'y a pas d'autre.
Tu veux dire par là qu'il y a un transfert, effectivement, entre ce que donnait l'État avant sur le privé pour aujourd'hui, éventuellement,
le retrait de l'État. Le retrait de l'État se traduit de toute façon, en principe, devrait se traduire par une privatisation, mais là, c'est même pas ça. C'est-à-dire que le retrait de l'État crée un manque. Le retrait de l'État, dans tous ses aspects, provoque une augmentation du chômage, une baisse de la consommation.
Bien sûr.
Hein, bon, et donc il crée de toute façon une spirale dépressive. Ajouté à ça que c'est tous les pays européens qui sont concernés, on a une spirale dépressive. Or, comme dernier levier d'action pour être dans cette compétitivité générale et généralisée, y compris contre les pays européens, en l'occurrence, donc contre, je sais pas, la France qui a exporté ses produits en Grèce, on va dire. Bon, on se demande comment les Grecs vont acheter les produits français, mais c'est un autre problème. Donc, il ne lui reste plus que des baisses qui sont sur les salaires, sur la protection sociale. Donc, en résumé, le mythe, le discours sur la compétitivité, le choc des compétitivités, ça se traduit par exemple très concrètement en Grèce par une baisse générale des salaires. En Grèce, en Espagne,
hein, en Italie.
Il faut que l'Italie ait une réforme du marché du travail, au passage, en Italie. Et donc en France, c'est pour ça qu'on est là-dessus. On parle de choc de compétitivité. Le choc de compétitivité en France, donc il s'agit en fait de transférer une partie de la protection sociale qui revient au coût des employeurs sur les consommateurs. Voilà. Donc, et c'est quand même très hypothétique, parce qu'en définitive, certes, on va soi-disant baisser les prix, c'est soi-disant une politique de l'offre, on favorise la politique de l'offre, on est censé acheter plus, sauf que si on le reporte sur les consommateurs, rien ne dit. Ça, couplé avec les augmentations d'impôts, une augmentation du chômage, rien n'indique qu'en réalité, les consommateurs achèteront les produits qu'on leur propose. Donc, au principe, le choc de compétitivité, ça devrait être destiné à l'extérieur. Et donc, ça devrait favoriser des entreprises ciblées. Mais ça, c'est pas du tout fait. Hein. Et donc... on en revient à cette espèce d'invocation. Donc ça, l'auteur de l'article le dit bien. Finalement, cette espèce de discours sur la compétitivité est une invocation à faire passer des mesures qui sont totalement impopulaires et qui favorisent à terme toujours le capital.
Oui, bien sûr. Moi j'avais compris plus ou moins qu'effectivement le faire baisser les salaires, empêcher les Européens d'avoir un pouvoir d'achat important. Ça n'aidait pas à la croissance, en fait, puisque moins tu as d'argent, moins tu peux acheter. Donc, est-ce que la rigueur est la bonne réponse à la crise? Ça me paraît complètement idiot, je veux dire.
Clairement non, mais...
Oui, clairement non, mais...
Se sortir de la politique de rigueur impliquerait une politique d'inflation, de nouveau, et de réduction des dettes.
C'est vraiment très grave d'avoir l'inflation.
Mais ça nuit au capital.
Ah bah oui.
Et ça nuit, ça nuit à la rente. Donc oui. Ça peut être la rente des retraités, mais c'est aussi la rente locative. C'est aussi,
des capitalistes.
La rente des capitalistes. Et puis ça, soi-disant, ça nuit à l'investissement. Pas que vous avez eu l'investissement ces derniers temps, hein, en France, mais bon. Et voilà. Donc, bien sûr que c'est pas que la politique d'austérité qui va continuer en 2013, hein, bien sûr.
Alors, juste une question comme ça générale, même si tu veux en dire deux mots, Christophe, c'est le plan de rigueur que Hollande a apporté devant Merkel et qui apparemment a été voté par les parlements en France. Est-ce que vous considérez que c'est un bon plan ou est-ce que ça va pas assez loin ou est-ce que vous avez étudié un peu la question?
Le plan de rigueur?
Non, le plan de relance dans le traité européen qui a été...
Il n'y a rien. Il n'y a rien en relance, fait. Il y a 60 milliards. 60 milliards, en fait, ça représente une goutte d'eau au niveau européen. Ça représente une goutte d'eau. Donc on ne peut pas parler de politique de relance. Non, le seul aspect qui sera entre guillemets positif, c'est qu'évidemment on nationalise la dette. Donc ça veut dire que les banques, la BCE a racheté des titres de dette. Et donc effectivement qu'elle est en train éventuellement de sauver l'euro, ça d'accord, mais ça en fait pas encore tout à fait une banque centrale de plein exercice et il semblerait que les taux d'intérêt sur les dettes grecques ou même au niveau européen en fait soient de toute façon plus élevés que leur équivalent anglo-saxon américain et britannique, et ça c'est un effet direct de la banque centrale qui emprunte sur le marché secondaire, qui ne finance pas elle-même en fait, qui ne prête pas elle-même aux États. Il préfère racheter des titres de dette ou favoriser, en fait, plutôt favoriser des banques privées qui prêtent des dettes en fait. Hein.
Voilà. Très bien, merci Ludo. Tu voulais dire quelque chose, Christophe, sur
Non, mais Ludovic a bien expliqué la situation. De toute façon, la politique de rigueur n'aboutira pas à une relance de la consommation, puisqu'il n'y aura jamais d'hausse des prestations sociales et d'hausse des salaires globales, quoi. Mais par rapport à ce que tu disais sur la notion de compétitivité, il faut savoir une chose, c'est que principalement la dette structurelle de la France, c'est l'absence de ressources pétrolifières. On a commencé à avoir de la dette en France au moment du choc pétrolier.
En 73.
De 73.
Exactement.
Exactement. Donc c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros.
On n'est pas le seul. Hein.
Ah non, on n'est pas le seul. On n'est pas le seul. Je n'ai pas dit le contraire. Mais il y a aussi, sur la notion de compétitivité, c'est un serpent de mer. Parce que, notamment les Centraliens, quand il y a eu, après 1945, la reconstruction de la France, ont immédiatement pesé pour la création d'infrastructures d'envergure. Mm-hmm. Refaire une ligne ferroviaire qui était à faire, etc. etc., etc. Et c'était une nécessité parce que la position de la France au niveau de l'Europe est quand même relativement centrale. Donc c'est ça qui... C'est un argument, c'est la qualité des infrastructures qui donne un argument dans le cadre d'investissement. Par contre, il y a effectivement une erreur. Il y a deux erreurs historiques, mais ça, on le répétera souvent à cette émission. La première erreur, c'est d'avoir désindustrialisé le pays au nom d'une économie basée sur les prestations de services. Ça a fait perdre plusieurs points de produit intérieur brut, la richesse nationale à la France, ce que n'ont pas fait les Allemands. Donc du coup, aujourd'hui, ils ont une balance commerciale extérieure nettement positive par rapport à nous. Et la deuxième erreur centrale, c'est la notion de libre-échange et refus du protectionnisme par rapport à des pays qui ont des coûts du travail et des coûts sociaux ridicules. Sauf qu'on n'est pas en démocratie par rapport à ces pays-là. Donc la question qui se pose, c'est que la démocratie et la liberté, ça a un coût. Et c'est vrai que, voilà, quoi. Tant qu'on ne reviendra pas à la notion de protectionnisme et un plan de rigueur, va créer quoi ? Une spirale négative. De toute façon, les gens aujourd'hui...
Est-on encore en démocratie ?
Oui, parce voilà, que je tiens quand même à rappeler qu'en 2005, au traité européen, qui a gagné, le non a gagné avec 55% des voix,
absolument,
sur référendum, il est repassé par les députés pour être... voilà.
Tout à fait,
donc, démocratie zéro.
Et puis non, nouveau traité européen, je veux dire, et particulièrement dans les mécanismes de sanctions vis-à-vis des budgets, des budgets votés par les parlements nationaux est particulièrement antidémocratique.
Bien sûr.
Juste une toute petite remarque en trois phrases. Il y a une chose, c'est que parmi les grands espoirs du gouvernement actuel, c'est que les Français puiseront sur leur bas de laine. Ouais. Or, on craint un bas de laine justement au moment où les temps sont difficiles. C'est pas pour l'utiliser.
Tout à fait. Alors moi j'ai quand même deux réponses juste pour j'ai deux réponses à donner avant de passer la chanson. Deux réponses pour relancer, pour donner de la relance. C'est taxer le capital, ça va faire rire tout le monde parce que c'est très voilà. Et nationaliser les banques, je pense que là on pourra commencer sérieusement à avoir un peu de relance parce que là c'est ce qu'il faut faire en fait a priori. On écoute une chanson.
Il y a un petit blême. Sur trois passants il y a deux indiques et le troisième est en habit. T'es bien Marianne avec ta clique, à jouer on est mieux qu'en Grèce. Sur trois passants il y a deux indiques. Un peu bégale, y a la révolution qui gronde, y a la révolution qui gueule, et moi j'aime Marie ma blonde.
Chômeurs, chômeuses, précaires, bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission bien sûr des chômeurs et des précaires. Vous venez d'entendre une chanson de ça s'appelle Marianne, c'est du célèbre chanteur militant aussi, Marc Augeret, qui est pour moi le chanteur le plus important. Voilà. Très bien, on va reprendre cette émission. On va parler maintenant puisqu'on parle des chômeurs aujourd'hui dans cette émission, on va parler d'un chômeur qui a envoyé énormément de CV et qui a eu très peu de réponses, Christophe.
Alors, c'est un article de nos collègues d'actuchômage.org. Ça fait froid dans le dos parce que c'est caractéristique d'une situation dont on parle peu. Et ce témoignage est assez poignant. Sous le titre 852 candidatures, 51 réponses, un CDD d'un mois. Eh bien, en fait, c'est l'histoire de Jean-Louis à 59 ans. Chômeur depuis février 2009, il vit avec 525 euros par mois. Aujourd'hui, il sort de sa réserve pour témoigner. Et il dit quoi ? Ben, il dit « Moi, en un an, j'ai envoyé 852 demandes d'emploi, j'ai reçu 51 réponses, obtenu 28 entretiens pour décrocher au final un job d'un mois. » Alors, il faut savoir que Jean-Louis, c'est quelqu'un qui a qu'une seule pièce pour vivre. Il est attablé à la cuisine, bureau, pièce à survivre. C'est un argent-joie de 59 ans. Il feuillette son fameux cahier de collier où il a tout consigné avec la méticulosité et l'écriture d'un premier de la classe. Et sauf que voilà... On a quoi dans ce cahier? C'est 12 inscriptions dans des agences d'intérim, 10 inscriptions dans des boîtes de gardiennage, des pompes funèbres, etc., etc. Et puis en noir sur blanc, il y a noté toutes ces demandes aux employeurs potentiels qui ne consentent que rarement à lui répondre. Il note les visites au secrétaire à la bêtise hautaine méprisante qui sont de fait des véritables pare-feux lorsqu'elle vous signifie d'aller voir ailleurs ou jette négligemment votre CV comme s'il s'agissait d'un papier gras ou en bout de bureau ou vous raccroche le nez comme vous foutrez une main dans la figure. À première vue comme ça, Jean-Louis est un type normal, simple, posé, à la politesse des âmes et le salut toujours amical. Je lis un peu l'article parce qu'il est émouvant. C'est un type en apparence sans histoire et pourtant... Jean-Louis est un AZF social à lui tout seul. Un à un, les fils de son parachute social ont lâché sans qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Tout d'abord, il y a eu dans un premier temps un licenciement chez Technal à Toulouse en octobre 2005. D'abord, et puis c'est le début de la chute du vertigineuse. Pas dont on fait les records dans la une des journaux, hein. Non, non, c'est autre chose. Devinez quoi ? Pas de boulot. Le ménage qui se pète la gueule, la vie de couple qui part en torche, puis la banque qui lève l'herse de l'interdiction bancaire, ensuite un EDF qui coupe le compteur et les dernières lueurs des soirs, et enfin les huissiers qui, eux, ne vous lâchent plus. Les impayés de loyer qui s'accumulent, etc. Mais voilà, Jean-Louis a un défaut. Il est mending et il n'est pas de ceux qui font le siège des bureaux de l'assistante sociale. Lui, il veut pas faire le monde d'une aide palliative. Lui, ce qu'il veut, c'est un travail qu'il revendique pour se sortir de là. Eh ben oui, c'est un peu normal, parce que Jean-Louis, il est dans une autre génération. Il a commencé à travailler à 16 ans, parce que son père lui a appris de la valeur du travail pour être un homme digne. La fameuse méritocratie. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean-Louis? Il y fait « Moi, j'ai fait 27 métiers dans ma vie. Avant, vous aurez dit « Vous êtes sacrément compétent, monsieur. » Aujourd'hui, on vous traite carrément d'instable. Alors, oui, mais voilà, il veut pas faire de bruit. » Il lui veut trouver un travail, il attend pas, il arrête pas de se battre, etc. Et alors, la conséquence de ça, c'est que il combat à la limite extrême de ses forces. Donc ça veut dire quoi? Je vais te dire, c'est 17 kilos perdus en 6 mois. Ça rend 44 euros par mois pour se nourrir. Il passe parfois 5 jours sans se manger. Et mais trouver un travail, c'est ce qui me sauverait. Jean-Louis, il avait autrefois une vie sympa. Et puis, même sur les bancs de l'école... Il y en a certains qui l'a connu, qui sont maintenant élus à la ville. Alors, il connaît du monde dans sa ville, mais il n'a pas osé leur parler parce que des fois, il y a des gens que tu croises dans la rue, la tête basse, ils hurlent en silence. Et puis ils n'osent pas demander parce que ça ne fait pas partie de leur génération, ça ne fait pas partie de leur culture. Voilà. C'est le silence de la pauvreté.
Oui.
Alors, je précise une chose, selon Michel Hervé, qui cite cet article sur son blog, fin 2012, ils étaient près de 475 000 en métropole, 500 000 si on intègre un peu l'outre-mer, qui, comme Jean-Louis, ont plus de 3 ans d'inscription au chômage et sont plus de 50 ans, avec une moyenne de chômage qui n'a pas arrêté de croître au niveau des statistiques.
Ah oui, alors il y a quand même des chiffres qui font peur quand même. 475 000 personnes dans ce cas. Il faut savoir que quand même, chercher du travail, c'est comme...
C'est un métier maintenant.
C'est un métier, voilà. Et c'est vrai qu'on est assez mal reçu d'une façon générale.
Les seniors vivent un calvaire en France.
Alors oui.
Un calvaire social, quoi. On n'en parle pas, ils vivent un calvaire social. C'est clair.
Et il a quel âge cet homme aujourd'hui ?
59 ans.
59 ans, d'accord. Donc il faut qu'il travaille encore au moins 15 ans pour pouvoir toucher sa retraite, a priori.
Oui, il ne travaillera jamais. Oui, 15 ouais. ans,
voilà. Donc,
c'est une partie de la population qu'on a mis dehors.
De côté, oui.
Et puis, il faut le dire, c'est qu'avec l'effet des réformes des retraites, ça va être de pire en pire, hein, parce que à mesure que vous arrêtez votre activité tôt, sous l'effet du chômage en l'occurrence, et puis que vous perdez des années de cotisation de retraite, à l'arrivée vous vous retrouvez avec rien du tout, donc vous rentrez dans une pauvreté, c'est là le retour de la pauvreté des seniors, quoi, ou des retraités qui se profilent à l'horizon, quoi, et qu'on avait réussi à endiguer au cours des années, depuis la mise en place des caisses de retraite et des caisses d'assurance, et donc qui au cours de jusque dans les années 80 avaient régressé, quoi.
Alors, ce qui est marrant, c'est que oui, effectivement, d'abord pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les caisses, effectivement, on a appris il y a pas longtemps que les caisses de retraite complémentaires étaient vides, ça on le savait. Mais apparemment, elles vont pas être les gens qui devraient toucher leur caisse complémentaire ne vont pas la toucher parce que ne devraient pas pouvoir la toucher parce que effectivement il y a pas d'argent dans les caisses. Alors l'État va certainement apporter de l'argent pour pouvoir payer les retraites, enfin les retraites complémentaires. Mais enfin, on en est là aujourd'hui, donc ça.
D'abord, les mutuelles ne peuvent plus emprunter.
Bah, ça devrait, elle devrait pouvoir, a priori. Oui, oui, elle devrait pouvoir.
Non, mais c'est. Mais je veux dire, le déficit des caisses de retraite, ça vient quand même aussi, quoi qu'on en dise, enfin, en tout cas des mutuelles aussi, des baisses de salaire, quoi, qui sont. Et du chômage cumulé à la baisse de salaire, ça représente quelque chose d'important.
Et par exemple du MEDEF qui voulait encore qu'on arrête les charges des entreprises. Donc on tire tout le monde vers le bas, quoi. C'est une catastrophe absolue, quoi.
Mais c'est le grand délire des libéraux, c'est-à-dire que la dette de l'État est une rente et il faut privatiser les derniers services de l'État pour que ça rapporte de l'argent et que ça soit financiarisé. Donc ça ouvre de la spéculation. Le rêve aujourd'hui des grands groupes d'assurance, des banques, c'est quoi? C'est de privatiser la retraite.
Absolument, tout à fait.
Voilà, c'est l'objectif numéro un. Ouais. Donc c'est la stratégie du pire.
Ouais, j'aimerais quand même donner une réponse à cette personne. Jean-Louis, c'est ça qui s'appelle voilà. Jean-Louis, c'est quand même que... À Jean-Louis, à tous les autres qui sont dans ce cas-là, c'est que les chômeurs qui n'ont pas le moyen de pouvoir vivre parce qu'ils n'ont plus d'argent, puisqu'on ne les paye pas bien, a priori, RSA, RMI, etc., sont des gens, en fait, qui sont non seulement compétents pour beaucoup d'entre eux, mais qui sont timides, réservés, tu vois.
Une forme de culpabilité.
De culpabilité.
D'intériorité.
Ouais, c'est ça. Donc
intérioriste.
Exactement. Donc moi, je dis, révoltez-vous, indignez-vous, comme disait Essel, a priori. Il faut se battre pour pouvoir, survivre, quoi. C'est
oui, mais c'est un choc générationnel. C'est-à-dire qu'on a le problème, et les politiques, aussi bien de droite comme de gauche, le savent très bien, par rapport à ces types de populations. On n'est pas dans la logique de protestation. Pour des raisons culturelles et générationnelles.
Bon, peut-être que ça bouge du côté des jeunes, mais enfin, d'accord, il y a des indignés, d'accord. Mais moi, je constate, hein, c'est juste une aparté, c'est que tous les plans sociaux dont on en parle pourquoi? Parce que c'est des grandes entreprises qui licencient, donc c'est une masse importante de gens, et que là, bah oui, il y a tout d'un coup une solidarité, je veux dire, entre ouvriers, et qu'on a des contestations, des formes de contestation telles qu'on en avait eu auparavant, c'est-à-dire de revendications. Nous, on est bien placés pour constater qu'à partir du moment où vous basculez dans le chômage, ou que vous êtes dans des emplois de service, donc précaires ou mal payés, là tout d'un coup, le syndicalisme n'est plus là, en fait, l'adhésion syndicale ne se fait plus, et puis c'est l'individualisation du travail et la solitude conduit
une déstructuration des luttes, mais
voilà, exactement. Et donc, ce qui fait que les dernières personnes en lutte sont, c'est encore la population ouvrière, même alors que ça part
et employés.
Employés, pas tant que ça, parce qu'employés du service public, oui, mais
non, parce que la barricade des cannes, elle n'est pas pour demain.
Alors justement, restons là-dessus, parce qu'apparemment il y a une grande enquête qui a été lancée par Harris pour la CGT, hein, sur effectivement que pensent les Français du chômage aujourd'hui, Ludo. Alors, quelques chiffres éventuellement.
Oui, c'est un sondage de Louis Harris. Alors c'était bien parce que finalement, moi, je trouve que les Français dans leur ensemble ne sont pas consultés sur le chômage.
Ils sont très de gauche.
Donc mais ça fait partie des sondages qu'on ne fait jamais. Je sais pas, vous allez avoir 40 000 sondages qui vont mesurer, alors je sais pas, l'opinion qu'on a sur les gouvernants, les telles mesures des sondages avec une petite question précise, et voilà, si vous répondez, et puis ça se retrouve à la une des journaux. Donc par exemple, on a trouvé un sondage récemment qui disait que si il y avait eu un autre référendum au traité européen, les Français auraient voté oui. D'accord,
j'en doute.
Peut-être sans campagne, bon, on ne sait pas. Bon, donc ces sondages sont toujours à prendre avec des pincettes. Et en l'occurrence, ce sondage n'échappe pas tout à fait à la règle, puisque il est effectué sur 1000 personnes. Donc ce qui n'est pas beaucoup, quand même, âgés de 18 ans et plus. Voilà, donc c'est méthode des quotas et redressement appliqué aux variables suivantes, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle et région de l'interviewé. Bon, voilà, ça se veut représentatif. Mais c'est quand même intéressant, parce qu'en définitive, il y a des questions, des vraies questions qui sont posées. Donc par exemple, dans le mine, doit-on conditionner les aides accordées aux entreprises à la création d'emplois? Et là, les Français répondent à 91, enfin les Français sondés, pardon, les sondés représentatifs, donc répondent à 91% favorablement au conditionnement des aides accordées aux entreprises à la création d'emplois. Donc ça, c'est
rassurant.
Une bonne chose. Oui, parce qu'on sait très bien que les politiques d'allègement de charges ou les aides publiques n'ont pas été évaluées en termes de création d'emplois.
Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Strauss-Kahn. Voilà. Alors, deuxième question, interdire les licenciements dans les entreprises qui réalisent des bénéfices. Et bien là, on est à 73% favorable à une telle interdiction. Flexibiliser les contrats de travail en permettant aux employeurs d'embaucher et de licencier plus facilement. Il n'y a plus que 37% d'opinions favorables. Et donc, on a. Donc après, c'est ventilé, hein, par catégorie socioprofessionnelle, mais. Donc, par exemple, alors, conditionner les aides accordées aux entreprises et à la création d'emplois, donc l'ensemble des Français, il y a curieusement une unanimité, donc 91%. Ensemble des salariés, 91%. Salariés du public, 92%. Salariés du privé, 90%. Voilà. Interdire les licenciements, eh ben, on est pareil, à peu près 73%, entre 73 et 74%, pour salariés du privé ou salariés du public, c'est la même chose. Voilà, voilà.
Très bien, merci beaucoup. Alors, juste pour répondre à Claude qui est hors micro, me demandait si on était à RTL, je dis non. C'est pas ce que je dis qu'il faut s'indigner, que je suis à RTL, je suis à Fréquence Paris-Pluriel. Une radio est bien meilleure, même si elle est moins écoutée, en tout cas, elle est écoutée par le meilleur aussi.
Il faut préciser que l'auteur de l'ouvrage Indignez-vous a fini par appeler François Bayrou.
Oui, ça c'est vrai, mais ça n'empêche que c'est lui qui avait écrit Les Indignés, Indignez-vous. Mais voilà.
Moi je m'indigne en votant Bayrou.
C'est vrai que ça craint franchement. Donc à Fréquence Paris-Pluriel, on ne vote pas Bayrou, on vote bien plus à gauche.
On ne vote pas.
ou alors on ne vote pas.
La force du colza.
Voilà. Donc quand même, juste une petite annonce avant de finir cette émission. Pour lutter contre le chômage et les licenciements, pour la titularisation des précaires dans la fonction publique, grand rassemblement mardi 23 octobre. De l'ensemble des syndicats CGT de la fonction publique, donc de 13h à 15h métro Orsay. Donc rappelez-vous, il faut y aller quand même pour aider également nos fonctionnaires, parce qu'il faut aussi des services publics en France, il ne faut pas arrêter les services publics. Voilà, cette émission se termine, merci messieurs de l'avoir faite, merci messieurs dames de l'avoir écouté, entendu. Je vous dis à dans 15 jours, mais la semaine prochaine je crois que c'est Copernic, hein, si mes souvenirs sont bons.
C'est Copernic,
voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'embrasse les filles et un gros soigné de mon garçon, salut.
Bonsoir.